RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Stories, aux habitants intervenantes auprès des jeunes dans l'insertion. Nous sommes avec Flora Guébali, qui est entrepreneur dans la transition écologique, et le chef d'entreprise Emmanuel Devilliers. Tout à l'heure, à midi moins 20, nous reviendrons sur ce qui s'est passé à Damas, en Syrie, où se trouve le président de la République. Il y a eu une série d'explosions. Emmanuel Macron, le président de la République française, est sain et sauf, mais on en parlait tout à l'heure. Emmanuel Devilliers trouve que c'était une faute d'être allé en Syrie.
En termes de sécurité, c'est pas raisonnable.
Les canicules à répétition, est-ce qu'on va devoir repenser nos horaires de travail? C'est-à-dire, en fait, dire le 8h-16h ou le 9h-17h, c'est terminé. Il va falloir adapter, se mettre un peu à la mode espagnole ou sud de l'Italie. Vous venez en discuter avec nous. Est-ce que c'est possible de se mettre à une mode française comme ça? D'abord, on va accueillir notre invité. Mais juste avant d'accueillir François Ruffin, je regarde l'heure. Il est 11h03. Vous avez encore 12 minutes devant vous pour envoyer vacances par SMS au 732-16, vacances par SMS 732-16, c'est les vacances Bellambra. C'est le tout compris premium, c'est dans les clubs hôtels. Vous choisissez votre destination, mer, montagne, campagne, comme vous voulez, tout est pris en main, vous êtes comme des coqs en pâte. Envoyez vacances par SMS au 732-16, tirage au sort pour le gagnant Bellambra, tout à l'heure à 11h15.
RMC, face aux grandes gueules.
François Ruffin, député debout de la Somme et candidat à l'élection présidentielle, est avec nous. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
Bonjour, François Ruffin. La Cour d'appel de Paris va dire cet après-midi si Marine Le Pen peut, oui ou non, se présenter pour l'élection présidentielle. Ce matin, Laurent Wauquiez disait « Si jamais la justice empêche Marine Le Pen, ça sera une crise de la démocratie ». Vous êtes d'accord avec ça ?
D'abord, dire que le Rassemblement national est le seul parti qui fait sa primaire au tribunal. Et pourquoi? Pourquoi? Il faut rappeler les faits quand même. C'est une distribution par Marine Le Pen d'emplois fictifs comme des pains au chocolat. À sa sœur, à sa belle-sœur, à son chauffeur, à son corps de garde du corps, jusqu'au majordome de son père, pour 4,5 millions d'euros et étalé sur plus de 10 ans. Et le jugement de première instance, il parle non pas de petites erreurs, mais d'un système qui a duré pendant une décennie jusqu'à temps que la justice s'en saisisse. Et moi, je rappelle quelles étaient les déclarations. Qui disait quand allons-nous mettre en place l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés durant leur mandat? Marine Le Pen. Qui disait je demande l'application stricte et entière de la loi via le principe de tolérance zéro? Marine Le Pen. Qui disait les Français en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre des élus qui détournent de l'argent? Marine Le Pen. Qui disait il faudrait rendre inéligibles ceux qui ont été condamnés pour favoritisme, pour détournement de fonds, pour emploi fictif? Marine Le Pen. Et la troisième proposition de son programme, en 2022, la troisième mesure, donc très haut, c'était supprimer toute possibilité de réduction et d'aménagement de peine. Donc ça veut dire qu'elle devrait même pas porter le bracelet électronique, vraisemblablement cet après-midi, elle devrait aller directement en prison. C'est pas ce qui va se passer. Mais voilà, quels étaient les propos de Marine Le Pen. L'inéligibilité à vie. Donc la justice, là, elle fait son travail.
Et donc c'est pas grave si la favorite est empêchée.
Je veux dire, elle a commis une faute dans la durée et que je viens de décrire. C'est pas une petite erreur.
Il y a deux peines. Il y a la peine en elle-même et l'inéligibilité. C'est une double peine en fait, en quelque sorte. C'est l'empêcher de se présenter. En démocratie, est-ce que c'est pas le peuple souverain qui doit avoir le dernier mot?
C'est elle qui souhaitait l'inéligibilité à vie.
Oui, non, mais d'accord.
Là,
mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Elle a une éligibilité qui n'est que très provisoire et qui, pour moi, normalement, je veux dire, si jamais on appliquait la peine de manière stricte, elle serait en prison.
Oui. On n'applique jamais les peines de manière stricte.
Est-ce qu'on imagine un candidat en prison? Non. Donc là, je pense que je vais vous dire ce que je ressens. Je vous écoutais hier, j'écoute les radios. Je ressens finalement dans ce pays une acceptation de la corruption, dont Marine Le Pen est l'un des symboles, dont Nicolas Sarkozy est un symbole, à mon sens, beaucoup plus grave, parce que c'est un crime contre la nation qui a été commis par Nicolas Sarkozy. Mais en dessous, il y a toute pour moi, aujourd'hui, une fusion entre l'argent et l'État. Et finalement, ce que je ressens, c'est que le corps social est en accoutumance de ça. En tout cas, c'est ce que j'entends. Je veux dire, côté politique, vous allez avoir aujourd'hui une grande loi du silence. Ils vont très peu s'exprimer sur ce cas. Parce que finalement, ça va faire corps. Et je vois que du côté des médias, bah, y a plutôt une compréhension de la tolérance vis-à-vis de ça.
Vous parlez d'argent. Y a une personne qui pourrait nous coûter des dizaines de millions d'euros une fois qu'il va quitter le pouvoir. C'est Emmanuel Macron, c'est ce que vous dites. Il aura 49 ans l'année prochaine. Et vous pensez que les avantages qui sont prévus pour les anciens chefs de l'État sont trop importants, qu'il faut réduire tout ça?
Nous avons produit un cahier de campagne dans le cadre de la présidentielle pour une loi de séparation de l'argent et l'État qui est finalement nos mesures en matière de probité. Et l'une de nos mesures, c'est de supprimer les avantages à vie, une nouvelle abolition des privilèges pour les anciens présidents de la République. Aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont pour toute leur vie 3 collaborateurs, un logement, des bureaux. Ils ont un chauffeur avec le véhicule de fonction. Ils ont un majordome, et c'est-à-dire que ça nous coûte à peu près 2 millions d'euros par an, par président. Là, vous en avez deux.
Alors quand on a un président qui quitte le pouvoir jeune, ça va coûter cher sur la durée.
Donc là, ça sera... Ça
on nous le fera, sait, bien sûr, une longue vie.
Ça nous fera 6 millions d'euros par an pour les anciens présidents. Moi, je considère que quand on abandonne son mandat, quand on quitte l'Élysée, on redevient un citoyen ordinaire.
C'est pas un peu démago de s'attaquer à ça, parce que ça va pas résoudre notre problème de dette.
6 millions d'euros dans une école, ça fait du bien.
D'une part, c'est à ce que ça peut représenter pour les Français, en termes de budget, mais évidemment, ce sont des présidents, tous, ils ont dit qu'il fallait faire des efforts, voire pour certains qu'il fallait faire des sacrifices. Et les prochains vont dire la même chose. Et je pense que c'est vrai, le pays en a besoin. Mais il doit y avoir un ruissellement de l'exemple qui doit venir d'en haut. On peut pas demander aux Français de faire des efforts. Et là, faut mesurer à quel point ils se serrent la ceinture. Là, depuis quelques années, les salaires réels ont baissé dans notre pays. Les salaires sont devenus moins forts que l'inflation.
Tous les jours, on a des témoignages.
Est-ce que vous laissez au moins les officiers de sécurité?
Quand une menace, c'est dans la proposition de loi. Quand une menace est avérée, il y a une protection policière. Bien sûr. C'est évident.
Et alors, c'est une proposition de loi que vous avez déposée cette semaine.
Qui vient d'être déposée dans la foulée de notre cahier de campagne.
Et vous pensez qu'elle peut passer parce qu'on a une assemblée un peu compliquée?
Non,
là.
Mais il s'agit de la porter, en tout cas. Vous savez, l'ONG Transparency International, dans son rapport, elle dit quoi? La France dégringole dans le classement de la lutte contre la corruption.
Merci. Voilà.
La France risque de perdre le contrôle contre la corruption. Et elle parle d'une léthargie politique. Eh bien, je suis là pour sortir la France de sa léthargie politique face à la corruption, parce qu'il y a de la loi du silence, parce qu'il y a de la coutumance, mais parce qu'il y a aussi des conséquences. Que morales.
Moi, payer les anciens présidents, c'est pas ce qui me choque le plus, mais je suis d'accord sur le fait que
même
si on veut rétablir... Oui, non, mais ça reste des montants à l'échelle d'un État qui sont symboliques. En revanche, excusez-moi, moi j'ai travaillé dans le monde des affaires, dans le monde des médias et dans la politique. Et ce qui me choque le plus, c'est à quel point tous ces gens-là sont amis. Et on peut pas reprocher à des amis de se protéger, puisque moi-même je protège mes amis. En revanche, quand tout ce système-là, et c'est pas complotiste ce que je dis, je crois que c'est largement documenté depuis très longtemps, sont amis, comment on fait pour éviter qu'il y ait de la corruption à tous les étages? Moi, par exemple, j'ai vu, on pourrait citer Castaner qui est sorti de son ministère pour aller travailler chez Chine, excusez-moi, c'est hallucinant. Mais moi, j'ai vu aussi des conseillers de l'ombre qui partaient pour travailler chez Total. Donc, comment on fait quand on travaille avec le patron de Total et qu'on devient ami, qu'on travaille jusqu'à 3h du matin, je comprends qu'on ait envie de défendre ses intérêts, qu'on ait envie de le défendre, mais après, on ne peut pas retourner en politique. Enfin, ça ne marche pas. Comment on fait ça?
En tout cas, vous pointez le doigt sur ce qui n'est pas de l'ordre de la symbolique, mais qui est la véritable corruption de la nation. C'est ce qu'on appelle de manière gentille les pantouflages et rétro-pantouflages, et ça a l'air sympa parce que c'est des charentaises, ça a l'air pépère. C'est ce qu'on appelle aussi les portes tournantes, mais il faut bien voir que les gens qui franchissent la porte, ils se franchissent avec un bout de la République. Et c'est devenu industriel.
Ouais, mais...
Ce sont, en 3 ans, plus de 500 ministres hauts fonctionnaires qui sont passés, pas seulement dans le privé, mais qui sont passés dans le privé, au poste de lobbyiste, d'affaires publiques, c'est-à-dire pour vendre leur carnet d'adresse. Vous avez cité Christophe Castaner, mais c'est devenu une mode. Tous les ministres se mettent à former leur cabinet conseil à la sortie des ministères pour vendre leur numéro de téléphone. Oui, et finalement, ils ont des entrées dans les ministères.
Vous écoutez, comment ils font? Parce que à la fois, vous voulez supprimer leurs avantages et vous les empêchez de travailler.
C'est compliqué. Il y a plein d'autres choses à faire que de faire du lobbying et que de faire des affaires publiques, et y compris dans le privé. Il y a des tas de choses à faire. On peut travailler dans l'industrie et monter des process industriels.
Oui, bah, ils sont compétents pour ça.
Mais, en tout cas, ils sont compétents pour une chose, c'est sûr. S'ils sont pas compétents pour grand chose, pourquoi on les met au ministère?
Voilà.
D'accord? Donc, en fait, ils accumulent des adresses et ensuite, ils vendent ça.
Ils vendent ça.
Mais alors, pourquoi? Et ça a des conséquences.
En fait, vous êtes gouverné par des lobbyistes.
Moi, je veux qu'on dise que c'est pas qu'une question de morale. Ça a des conséquences sur le pays. Quand l'industrie est vendue par petits bouts, Alcatel, Arcelor, Alstom, que l'ancien conseiller de Macron à l'industrie devient le directeur France de General Electric. Voilà. Là, pourquoi on a des data centers partout? Pourquoi on a porte ouverte pour Amazon, Google?
Parce que c'est l'avenir.
Non. Pourquoi? Parce que vous avez les principaux régulateurs, des hauts fonctionnaires, qui sont tous passés à faire du lobbying du côté
de... Tout le monde fait des data centers partout.
Non, mais Olivier, alors, moi je voudrais intervenir.
C'est un autre sujet, mais la France est le pays du monde, médaille d'or, où il y a le plus d'investissement des GAFAM sur son territoire. Voilà. C'est pas de la souveraineté numérique, nous sommes en train de construire une colonie numérique. Et je dis, on accepte la colonisation de l'État par des intérêts privés, par les intérêts des multinationales, qu'on fait confondre avec l'intérêt national.
Je vous écoute et c'est très intéressant parce que, en fait, ce que vous dites, c'est ce que les Français, dans leur majorité, ressentent et pensent. Parce que, en fait, en France, en politique, on pense idéologie. Et en fait, les gens pensent pas idéologie. Nous, on se dit que tout ce qui peut faire du bien à la France fera du bien aux Français. Et le problème, c'est que un François Ruffin, un David Lisnard et d'autres...
Ouais, ils pensent pas la même chose quand même.
D'accord,
Ruffin,
oui, d'accord.
Lisnard.
Oui, ils pensent pas la même chose. Mais il y a des bonnes idées partout. Il y a des bonnes idées partout. Et ce que dit François Ruffin, c'est la vérité, c'est que ce sentiment qu'il y aurait une monarchie qui aurait tous les privilèges, y compris de se recaser un an avant un peu partout, d'être dans des postes qui ne servent absolument pas le pays alors qu'ils ont prétendu être ministres pour servir le pays, que finalement parfois certains sont restés juste éphémères 3-4 mois, ils sont partis et ils sont partis avec des carnets d'adresses qu'ils revendent. Moi je suis désolée, ça pose un problème quand on dit aux Français tous les jours que bon ça va, le carburant est passé de 2,20 à 2 €, on a fait un effort, le caddie est moins rempli avec 100 €, mais c'est juste une illusion. En fait, la France du réel, elle a plus voix au chapitre. On la traite de populiste à chaque fois, on la méprise et on la rejette à chaque fois qu'elle dit je ne vis pas bien de ce que je travaille. Et donc c'est important que l'État commence l'exemple à dire je vis autrement, je me désendette et j'ai surtout la probité et l'exemplarité.
Oui.
Donc moi je trouve pas et Monsieur Ruffin,
ta question parce qu'il reste
Monsieur Ruffin, c'est comment répondez-vous au fait que à chaque fois quand on défend ce que vous défendez, on vous dise c'est t'es une goutte d'eau et c'est populiste.
Mais là en l'occurrence, j'entends que sur les anciens présidents de la République, ça soit symbolique. J'entends que pour le président au SMIC, ça soit symbolique.
Mais l'addition du symbolique, ça fait combien?
Et puis à la fin, là ce dont on parle. Je le dis, c'était devenu un phénomène industriel.
Ben voilà.
Et c'est le poisson qui pourrit par la tête. Et notre mesure face à ça, c'est dire il y a 10 ans de frigo. Un ministre sort de son ministère pendant 10 ans. Il a le droit d'aller travailler dans le privé. Il a le droit d'aller devenir instituteur. Il a le droit de devenir éducateur. Il a le droit de faire des tas de trucs. Mais en revanche, pas de lobbying, pas d'affaires publiques pendant 10 ans.
Alors, un homme indigné avec nous ce matin, Ruffin. Au début, c'était ce qu'on appelait un anard pour dire anarchiste, mais maintenant c'est un vrai homme politique puisque vous avez été élu en 2017, en 2022, en 2024. Je me souviens au soir de votre premier tour de 2024, vous aviez été assez touchant, même si j'ai pas votre sensibilité politique. Vous étiez avec vos militants enthousiastes et vous leur disiez attention, calmons-nous, c'est pas gagné, on peut gagner et vous avez gagné. Vous êtes un type attachant. Vous avez de la sincérité, vous êtes un battant, vous avez pris vos distances avec LFI, tout ce qui peut affaiblir Jean-Luc Mélenchon, évidemment, est apprécié de mon point de vue. Vous avez une certaine nervosité aussi qui vous caractérise et on ne peut que saluer votre authenticité. Maintenant, au-delà de l'homme empathique, pour moi, politiquement, vous êtes un fossoyeur. Vous devriez chanter à la fin de vos meetings la conclusion de Georges Brassens avec le fossoyeur, tout le mal que m'a donné la dernière pelletée, je suis un pauvre fossoyeur. Alors ma question est simple, François Ruffin, et on pourrait la poser à tous les candidats au prochain scrutin présidentiel, est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez être élu président de la République?
Oui. Oui, il y a 53% des Français qui aujourd'hui se sentent orphelins.
Ben voilà.
Qui savent pas, voilà. qui se disent dans l'offre politique qu'il y a sur la table, ça ne me va pas. Et je prétends, oui, que les thèmes que je porte, vous savez, cette question de la probité face à la corruption, aujourd'hui, qui est pourtant un jour important là-dessus, vous en aurez pas d'autres pour venir les porter. Le nouveau petit livre rouge. Le premier qu'on avait fait, c'était sur le statut des travailleuses et des travailleurs essentiels. Parce que je sais que si je suis pas là dans la campagne, si nous ne sommes pas là pour parler des auxiliaires de vie, des aides à domicile, des accompagnants d'enfants en situation de handicap, des caristes, des camionneurs, de tous ces métiers-là, ces mots, pendant toute cette année, ne seront pas prononcés. Donc oui, je pense que nous avons vocation. Vous savez que vous m'avez décrit comme un art. Je me suis jamais senti un art. Même quand j'ai lancé mon petit journal à Amiens, je me suis dit, j'ai vocation majoritaire. Je veux convaincre la majorité. Je veux me faire aimer de ma ville et maintenant de
mon
pays.
Oui, mais moi, je pense que vous allez opposer une délégation. Vous avez quitté Jean-Luc Mélenchon avec beaucoup de courage parce que vous êtes un type couillu et c'est en cela que chacun vous respecte. Mais je crains que dans l'hiver prochain, dans une logique à l'extrême gauche, vous ne reveniez en soutien de Jean-Luc Mélenchon et de sa possible accession au second tour de la présidentielle.
Jamais je me suis reconnu dans extrême gauche. Moi, ni gauche radicale, ni gauche de rupture. Moi, je suis de gauche, rien que de gauche, dans une tradition
que
vous pouvez ne pas aimer, puisqu'elle part de la Révolution française et elle passe par le Front populaire, François le Ruffin. Conseil national de la résistance, mai 68, mai 80. Voilà.
François Ruffin, vous êtes un amateur de football, on le sait, vous suivez la Coupe du Monde. Là, on est tous derrière Kylian Mbappé, là, pour le défendre, notamment face aux attaques racistes de la sénatrice paraguayenne.
Je pense qu'il n'a pas besoin d'être défendu. Il se défend très bien tout seul. Et même, c'est un attaquant, et je le vois, qui attaque. Dire que les Paraguayens sont aussi lamentables en dehors du terrain que sur le terrain. Et c'est pas là-bas que j'irai passer mes vacances. Mais, et par ailleurs, vous savez, je suis vraiment amateur de football. Et je vois qu'on est une équipe de France. Franchement, ça fait plaisir. Alors, j'ai grandi, moi, j'avais 6 ans en 82, au moment du quatuor Tigana, Gires, Platini, Fernandez. Et punaise, là, on a l'impression d'avoir un âge d'or. Ça veut pas dire, alors... Comme je suis de gauche, je sais que le panache n'amène pas toujours la victoire, mais bon sang, il y a du panache, c'est beau à voir, et franchement, chaque fois que on a un moment à regarder cette équipe de France, ça fait plaisir.
Pour
moi,
vous,
j'ai du plaisir.
C'est la mieux placée pour gagner, ou est-ce qu'il y a une autre équipe qui vous fait peur?
Il y a les bonnes équipes, il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne, et je le dis, il peut y avoir un côté réaliste qui vient briser notre panache, mais le panache, là, il est français, et j'aime le moment Pont d'Arcole, où le drapeau tricolore est brandi haut et fort avec panache. Et là, on éprouve ça. Je pense qu'on éprouve... Vous savez, la politique, il y a le porte-monnaie, mais il y a autre chose, c'est la fierté. La fierté d'être français, la fierté parce qu'on a un avenir ensemble, parce qu'on a un horizon commun. Et je pense que ce qui est le pire aujourd'hui, c'est il y a la crise matérielle. Oui, l'essence, oui, les salaires, oui, l'inflation. Mais il y a pire, c'est la crise spirituelle.
La communion.
La crise spirituelle. Vous savez cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Ce qui vaut pour un couple, vaut aussi pour une nation. »
Vous rêvez d'un France-Argentine en finale ?
Je rêve de notre revanche. Oui, je l'espère bien que nous aurons cette revanche. Maintenant, il faut pas avoir de mépris pour les équipes que nous allons avoir sur notre chemin.
Déjà,
le Maroc est une grande équipe.
Oui,
petite anecdote, je sortais de l'Assemblée nationale, il y avait un gars qui avait un t-shirt marocain. Je lui disais combien ils avaient bien joué. Il dit mais aujourd'hui j'ai le t-shirt marocain et demain j'ai le t-shirt français. Et voilà, c'est ça aussi la France. Et c'est ça la France, notre équipe de France d'aujourd'hui.
Merci Monsieur le député Ruffin. Merci d'être passé par les GG. 11h20, on va accueillir Thomas de Haute-Savoie. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour à
cher,
tous.
Mon cher Thomas, c'est vous qui avez été tiré au sort, c'est vous qui gagnez les vacances bel en bras, Thomas.
Ah, super, merci beaucoup.
Mais je vous en prie Thomas, mer, montagne, campagne, c'est vous qui choisirez votre destination en famille. Vous serez dans un tout compris premium, donc comme un coq en pâte, mon cher Thomas. Voilà.
Ah, génial, merci à toute l'équipe.
Belles vacances, bonnes vacances, merci de votre fidélité au GG, Thomas.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Dans un instant, les canicules... s'il vous plaît, les GG, juste le temps pour moi de dire, dans un instant, on va parler des canicules à répétition. Est-ce qu'on doit adapter notre mode de vie et passer un mode de vie à l'espagnol? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les Vous êtes avec les GG, avec les Grandes Gueules en direct sur RMC. Si vous avez raté les Grandes Gueules, vous filez sur les podcasts et sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous récupérez l'émission et vous profitez aussi de toutes les discussions qu'on peut avoir, parfois qui sont plutôt amusantes, plutôt rigolotes, plutôt décalées. Toutes les discussions que nous pouvons avoir pendant la pause pub. Flora Gebali, Zora Habitant, Emmanuel Devilliers, parlons ensemble des canicules à répétition et de la manière dont on pourrait revoir notre mode de travail. Ça nous ramène il y a plus d'un quart de siècle, plus d'un demi-siècle. Il fait trop beau pour travailler. Alors justement, est-ce qu'on doit revoir avec ces canicules nos horaires de travail ? Alors bien sûr, pour ceux qui sont dans les bureaux, qui sont à la climatisation, c'est une chose. Mais surtout pour ceux qui doivent se déplacer en extérieur et peut-être passer à la mode sud de l'Italie ou espagnole.
Alors Jean-Pierre Farandou, notre ministre du Travail, a dit qu'il se rendrait en Espagne début septembre pour voir comment font nos voisins. Alors avant donc ce voyage qui s'annonce passionnant,
initiatique.
Mais on peut regarder de près, peut-être d'ailleurs, dire à Monsieur Farandou, restez en France,
mais parce
qu'on sait déjà comment ça se passe en Espagne. Par exemple, il n'y a pas de loi pour les salariés, pour tous les salariés en Espagne face à la chaleur. Mais de nombreuses entreprises, notamment dans le sud du pays, se sont adaptées. Ils ont inventé la journée continue, la Jornada Intensiva. J'ai pas fait espagnol. Jornada Intensiva. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on travaille de 7h ou 8h jusqu'à 14h ou 15h. D'une seule traite. Voilà. Il y a 15h,
Emmanuel,
c'est fini.
Oui.
La journée est finie. Et les commerces ferment entre 14h et 17h. Et on travaille en décalé. Et le soir, bien forcément, on va dîner plus tard.
Non, moi, je vais reprendre le bâton d'indignation de François Ruffin. C'est pas parce que M. Farandou va aller s'empiffrer de jambon espagnol avec les syndicats. Car moi, ce qui me choque, c'est qu'il y va avec les syndicats.
Quelle
démagogie. Mais c'est minable. Minable.
Bon, il faut faire confiance au chef d'entreprise.
On sait quand même ce qu'il faut faire quand il fait chaud. On n'a pas besoin d'aller se rendre compte de l'effet de 40 degrés, surtout que s'il y va, si ça se trouve, il fera froid. Et si ça se trouve, on va avoir un temps pourri en août en France.
Alors, est-ce qu'il faut imposer, enfin en tout cas inciter les entreprises à faire travailler les salariés de 7h ou 8h du matin jusqu'à 14-15h, puis après...
Il faut laisser la liberté, assez de réglementation.
Flora.
C'est évident qu'il va falloir s'adapter au réchauffement climatique, puisqu'il y a des cuisines à Paris où il a été enregistré 75 degrés. Évidemment, les restaurants étaient fermés. Un ouvrier de chantier qui travaille dehors, il pouvait pas rester dehors la semaine dernière, pendant la deuxième canicule. On va voir la troisième, mais pendant la deuxième, c'était impossible. Pareil, il y a un autre sujet. Pourquoi 65% des bureaux sont climatisés, VS 7% des écoles? Quels sont les choix qu'on a fait dans les dernières années? Et surtout, qui paye pour la clim? Pourquoi, quand on les salariés, on a la clim. Est-ce que quand il y a canicule et que les écoles ferment, on peut emmener son enfant au travail? Bon, bah, il y a un grand plan d'adaptation comme de l'ampleur de celui du Covid. Hein. Souvenez-vous, le Covid, le 15 mars, on était à la rue. Petit à petit, on avait des masques, on avait du gel, on a mis en place le télétravail. En fait, c'est que grâce aux crises qu'on arrive à s'adapter rapidement. Sinon, on peut attendre demain la veille. Là, on est content. Il y a un ministre qui va faire un tour en Espagne. Bravo.
Il ne faut pas attendre le ministre.
Mais il faut qu'il y ait un cadre qui soit posé. Pendant le Covid, le cadre, il était très clair. Le contact était interdit. Les masques étaient obligatoires. Souvenez-vous, même sur les plateaux télé, on avait même le droit de se faire maquiller parce que pour éviter les contacts trop proches.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans
c'est pas vrai que l'entreprise tout seul va s'adapter. Ce n'est pas vrai.
Mais si.
Il y a besoin d'un cadre
mais
politique.
Mais c'est marrant parce qu'il n'y a qu'en France qu'on pense qu'il faut passer par la loi,
bien sûr,
des cadres, etc. En Espagne, il n'y a pas de loi. Ce sont les entreprises qui se sont adaptées.
Le monde entier a confiné pendant le Covid.
C'est tout l'intérêt. Bah oui, mais enfin, nous, on a fait un confinement bête et méchant.
Si on avait laissé les entreprises.
On a fait un confinement bête et méchant, on le sait aujourd'hui.
Bah oui, t'habitais à la campagne dans les champs, tu pouvais pas.
On a confiné les enfants qui ne risquaient rien et du coup, maintenant, on a des problèmes de santé mentale. Bon, bref, fermons la parenthèse. Mais là, en Espagne, les entreprises, c'est tout leur intérêt que leurs employés soient bien au travail. Donc, ils ont décidé de les faire travailler plus tôt le matin et puis les libérer en début d'après-midi. Voilà. Et là, pas besoin d'un monsieur Farandou pour trouver ça.
Surtout qu'il est déjà inscrit dans la loi française que l'entreprise a obligation d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés.
Non, mais il est.
La sieste n'est pas dans la culture française parce que les Espagnols, du coup, entre 14h et 17h, ils ne travaillent pas.
Non, mais en France, on a oublié le bon sens parce que la France a la spécialité de vouloir tout complexifier, tout administrer et tout faire passer par des lois pour empêcher des choses de bien fonctionner. C'est une mesure de bon sens. T'es artisan dans le bâtiment, t'as des ouvriers, il fait 45 degrés dehors. Jamais de la vie, tu vas laisser tes ouvriers partir sur les toitures.
Il y a des boîtes où il y a de la clim. Donc,
sur voilà, les toits, aller bosser. C'est à toi, chef d'entreprise, de dire, bah, écoutez, là, pendant 2-3 jours, on change les horaires.
Il y a 15 jours, il y a un couvreur qui est mort sur un couvreur de 20 ans.
Mais oui, soit l'artisan. La responsabilité de l'artisan est mise en cause.
Elle sera engagée, d'ailleurs.
Si, elle sera engagée. Donc, c'est du bon sens. Tu travailles dans un magasin comme vendeuse qui est climatisé. Bon, bah, ok, là, c'est différent. Voilà, et je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. On a empêché le peuple de reprendre le pouvoir sur ce qu'il considère lui de bien pour la vie économique et la vie quotidienne. Et là, regardez, c'est quand même hallucinant, quoi. On est au maximum de la colère des Français et le mec il s'en va en Espagne pour savoir comment tu vis dans une canicule.
Le débat c'est pas pour faire
le débat c'est
savoir. Est-ce qu'on peut vivre comme les Espagnols ?
Mais la question, elle est vite répondue. Il n'y a pas besoin.
On va vivre comme les Espagnols.
Non, la question, elle est vite répondue. Chaque entreprise doit assurer la responsabilité de ses salariés dans ces conditions. Moi, je me souviens à la mairie, les horaires étaient aménagés. On n'avait pas de clim.
Heureusement que Farandou ne va pas au Mexique, sinon il imposerait les chapeaux mexicains dans toutes les entreprises.
Non, mais c'est n'importe quoi. C'est ça. Et après, ce que dit Flora, elle a raison. Comment se fait-il que les bureaux soient tous climatisés et que les crèches, les haltes garderies, les centres de loisirs, etc.
Non, mais choix politiques.
Ben voilà, les choix politiques. Donc annoncer. Mais imaginez la gabegie. Annoncer, je vais voir en Espagne comment vivent les Espagnols quand il fait chaud. C'est du foutage de gueule.
Parce qu'il gagne du temps.
Et quand il va geler, il va aller au Canada.
C'est ça.
Quand il va geler, il va nous dire je pars au Canada pour savoir comment ils font au Canada. Faut arrêter de se foutre de notre gueule.
Un, il gagne du temps. Deux, il justifie son poste et son salaire.
Si une boutique veut ouvrir, si quelqu'un veut travailler de 17h jusqu'au coucher du soleil parce qu'il fait encore jour, parce que c'est mieux pour lui. Mais c'est son problème avec son employeur.
Oui, en quoi l'État offre cette souplesse?
Mais voilà, mais justement, c'est.
On a Magali qu'on connaît bien, qui est assistante régulation au SAMU, qui va intervenir dans la discussion. Bonjour Magali.
Bonjour les GG.
Bonjour Magali. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait réaménager nos horaires style espagnol? Alors dites-moi.
En fait, c'est ce que j'expliquais au collègue qui m'a pris au téléphone. Mon mari, il est conducteur de travaux dans l'étanchéité. Et en gros, l'étanchéité, il faut faire fondre du bitume au lance-flamme. Donc vous imaginez que forcément ça fait tout de suite beaucoup plus grimper la température. Et donc je crois que c'était pour la canicule de 2019, il a voulu aménager les horaires de ses collègues et il les a fait commencer à 6h du matin pour que les températures soient raisonnables. Et en fait il s'est retrouvé convoqué au commissariat pour tapage nocturne. Et le comble en fait c'est que la personne qui avait porté plainte pour tapage nocturne, c'était celle qui profitait justement de l'aménagement du chantier et elle avait exigé que le chantier soit rendu dans les délais, sinon ça allait mal se passer. Des pénalités,
et comment ça s'est terminé, etc. Cette histoire alors?
Rien en fait, ça a été classé sans suite. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que les gens, ils veulent des éoliennes, mais pas chez eux. Ils veulent des prisons, mais pas chez eux. Ils veulent aménager les horaires des gens parce que ça fait bien d'être compatissant, mais pas quand le chantier il est en bas de chez eux, sinon ouais, c'est la base nocturne.
Il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints là pendant les deux premières canicules de chantiers qui démarraient vers 5-6 heures du matin, et forcément ça fait du bruit dans la rue.
Et en fait, c'est de la fumisterie parce que les gens, quand il y a la canicule, désolé, mais à 6 heures du matin, on dort plus. Déjà, c'est l'heure d'aller se lever pour aller au boulot. Et donc, en fait, moi, je pense qu'effectivement, on peut aménager les horaires de travail. Moi, je suis la première à dire, c'est déraisonnable. Quand vous avez des trajets qui sont pas indispensables, reportez-les. Mais aménager les horaires de travail, c'est possible que si on aménage certaines choses dans la société. Genre, rendre plus possible l'idée d'aller porter plainte pour tapage nocturne à 6 heures. Quand c'est des pauvres gens qui vont travailler, quoi.
Je sais
que la consigne au SAMU, c'est de faire attention justement aux gens qui travaillent en extérieur parce qu'ils ont des tenues, qui sont compatibles avec leur travail, mais qui augmente la sensation de chaleur, c'est des personnes vulnérables. Et moi, je comprends pas qu'on se retrouve avec des gens comme ça qui vont déposer plainte pour tapage nocturne.
On
peut pas faire travailler les gens comme des chiens.
À ce stade, c'est comme si on disait qu'une ambulance qui sonne la nuit, elle fait du tapage nocturne. Quand c'est une question de survie, il y a plus de tapage nocturne.
Bah non.
Voilà, et donc il faut aménager certains pans de la loi dans la société pour rendre ces choses-là possibles. Parce que là, on peut aménager le travail, et je vois bien que le thème, en tout cas du débat aujourd'hui, c'est les horaires de travail. Et donc c'est de ça dont on parle. Mais pour aménager le travail, il faut aussi aménager la société.
Oui.
Il faut que les gens reviennent.
Non, mais c'est comme les gens.
Oui, ou alors simplement, on peut signifier dans ces cas-là, il y a une suspension du chantier. Pendant pendant 4-5 jours, pas de pénalité de retard.
Ça va dans un monde où les canicules restent exceptionnelles. Mais si on nous montre, si on nous annonce un monde où finalement la chaleur est devenue l'habitude, c'est-à-dire que si maintenant à partir de mai il fait 38 jusqu'à fin septembre,
et ben là tu légiféras.
On peut pas arrêter l'économie.
Non, sans forcément légiférer, on s'adaptera.
Pardon, mais dans les pays chauds, il y a des chantiers. Enfin, excusez-moi, mais il faut très tôt le matin.
Magali, merci d'avoir été dans les GG. Magali,
ils à midi, ils reprennent à 5h.
Vous avez quelque chose, les GG?
Allez-y, au revoir.
Moi, j'ai jamais eu le livre Les Grandes Gueules. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 45 ans.
Joyeux anniversaire.
Mais, Magali, on va regarder nos cartons. Je pense qu'on doit en avoir encore quelques-uns.
C'est cool.
On vous le signe avec les GG qui sont présentes aujourd'hui. On vous l'envoie et je vous embrasse et vous souhaite un bon anniversaire.
Joyeux anniversaire, Magali.
Merci.
Merci, Magali. Bonne journée. À bientôt pour de nouvelles discussions. Alors, est-ce qu'on doit aménager les horaires de travail avec ces canicules à répétition, passer à la mode espagnole? Vous dites oui, 64%. Allez, pour terminer, dans un instant, on va regarder ce qui s'est passé à Damas, capitale de la Syrie. Le président de la République, Emmanuel Macron, est sur place. Deux explosions, 18 blessés à proximité de l'endroit où se trouvait le chef de l'État. Peut-être qu'il a fait une erreur en allant en Syrie, Emmanuel Macron. 32-16 pour venir en parler avec les Grandes Gueules. Midi moins 25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Il nous reste encore 10 minutes à passer ensemble. 10 minutes avec vous, bien sûr, au 32-16. Zora Bitton, Emmanuel Devilliers, Flora Guibali. 10 minutes au cours desquelles on va revenir sur ce qui va être l'un des faits d'actualité du jour. C'est cet attentat, alors que le président de la République est en Syrie, s'est produit à proximité des lieux où il passait. Ce sont deux explosions qui ont eu lieu en Syrie, à Damas. Il y a quand même 18 blessés. Et ces attentats ont lieu donc au moment où le chef de l'État est en visite officielle sur place.
Alors, ce qu'on sait, c'est que donc le chef de l'État était dans un hôtel et deux engins explosifs ont été détonés près de l'hôtel où séjournaient Emmanuel Macron et la délégation française. Tu l'as dit, au moins 18 personnes ont été blessées, dont plusieurs policiers. Mais ce que nous dit l'Élysée, c'est qu'Emmanuel Macron n'était pas sur les lieux au moment des explosions. Il se trouvait déjà en réunion avec le nouvel homme fort de Syrie. Donc, pas de problème, il est sain et sauf. Aucune organisation pour l'instant n'a revendiqué cette attaque. Les autorités syriennes ont ouvert une enquête. Fallait-il aller en Syrie? On voit bien que ce pays n'est pas encore stabilisé, qu'il y a ces risques effectivement d'attentats. Emmanuel Macron était-il directement visé? Pourquoi? Pour quel motif? Emmanuel Devilliers?
C'est sans doute la fin de mandat qui conduit Emmanuel Macron à prendre des initiatives transgressives, parce que d'un point de vue de la sécurité, il est d'ailleurs le premier dirigeant occidental à se rendre sur place. La visite n'était pas garantie dans des conditions fiables. Mais d'une manière générale, sans être trop polémiste, le GSPR, le groupement de sécurité du président de la République, est devenu un peu une bande d'amis autour du chef de l'État. Et il n'y a pas vraiment d'autorité hiérarchique capable de dire non, en particulier au président. Je l'ai constaté lors de ses séjours touquetois réguliers, et ainsi que l'été à Brégançon. C'est une bande maintenant, on va pas dire de copains, mais
la sécurité
du président de la République est quelque chose d'impérieux. Il y a déjà eu une erreur, c'est de procéder au mix police-gendarmerie, car à l'origine, c'était uniquement des gendarmes à l'initiative du commandant Proutot. Et il est évident, on l'a déjà vu depuis ces 10 ans dans des gifles, dans un certain nombre d'incursions, que le président de la République n'a pas assez de frontières par rapport à un éventuel agresseur extérieur. Et l'attentat à Damas est de toute évidence destiné à la présence du président de la République, c'est plus qu'une alerte.
Florent.
On est ravis qu'il soit sain et sauf. On ne sait pas si l'attentat, il était contre lui ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des forces qui veulent déstabiliser les relations diplomatiques nouvelles qui peuvent se construire avec la Syrie. Ce qui, pour moi, montre à quel point Macron a raison d'aller en Syrie et de recréer des relations. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle avec quelqu'un, on pense qu'on est d'accord avec cette personne. La France a toujours eu un réseau diplomatique parmi les plus influents du monde, à une époque peut-être le plus influent du monde, et aujourd'hui on est en train de disparaître de toutes les scènes, en Afrique, au Moyen-Orient. Évidemment qu'on doit parler avec la Syrie, qu'on doit comprendre ce nouveau régime. Je pense qu'on n'a rien compris encore à l'équilibre politique local, et c'est normal parce qu'il est relativement nouveau, mais je pense qu'il est temps d'aller voir ce qui se passe, d'aller comprendre ce qui se passe, d'envoyer notre président, et de montrer que la France a encore un rôle sur la scène internationale. Voilà. Donc, et encore plus parce qu'il y a des attentats, on doit y aller et on doit montrer que on n'est pas peureux, qu'on est là pour faire de la diplomatie et discuter. Non. Et contrairement à toi, le GSPR, le groupement de sécurité du président de la République, j'ai travaillé avec eux, les personnes dont notre nation peut être le plus fière.
Oui,
c'est
mais
des
tu parles sous François Hollande,
sens,
je te parle de la situation actuelle.
C'est des personnes
actuelle.
Qui ne seront jamais amies au-delà de leur travail. C'est des personnes qui ont le sens de l'État comme j'en ai jamais vu. C'est des gens qui donneraient leur vie pour protéger le président. Donc non, je pense que la personne la plus la plus en sécurité de France, c'est Emmanuel Macron,
oui,
même à Damas.
Non, mais un voyage aérien jusqu'à Damas, etc., tout ça n'est pas raisonnable, c'est évident. N'importe quel expert te l'affirmera.
Le problème, c'est que c'est pas le chef de l'État, c'est le chef de l'État qui a le dernier mot, contrairement aux États-Unis où le président américain se plie aux consignes de sécurité en France. Et si Emmanuel Macron veut sortir de sa voiture pour aller saluer quelqu'un et que son chef de sécurité lui dit bah non, c'est pas raisonnable, c'est lui qui décide quel dernier mot, c'est Emmanuel Macron.
Là, pour l'instant, on ne sait pas si cet attentat a à voir avec la visite du président en Syrie. Donc on peut pas.
C'est assez évident, Zora.
Quand même, c'est près de l'hôtel, hein, quand même.
Oui, d'accord.
Six journées la délégation.
D'accord.
Et il y avait eu un attentat jeudi dernier qui avait fait 18 morts. Hein, quand
mais oui, donc
dix morts.
On n'a pas cet élément-là. Et après sur la France.
Pas de revendication.
Après quant à la France sur la scène diplomatique, évidemment qu'elle doit pas du tout s'absenter puisque c'est un de ses points forts. Maintenant, il faut pas oublier quand même que il est parti voir un mec. Qui il y a pas longtemps,
un ancien djihadiste.
Voilà, un ancien djihadiste dont le palmarès en barbarie est connu du monde entier. Et donc moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont se raconter, ce qu'ils vont se dire, parce que n'oubliez pas que quand il a pris le pouvoir il y a pas longtemps, les vidéos qui ont circulé de crimes absolument horribles, insoutenables, impossibles à regarder, qu'ont été dénoncés d'ailleurs. Il n'est pas parti voir.
Mais maintenant, il est du bon côté du manche.
Oui, d'accord. Mais donc voilà, il faut quand même se souvenir de ça. Qu'il y ait eu un attentat à côté, il faut attendre de voir.
Et de surcroît, le président a son problème oculaire, donc il est partout avec ses lunettes. Ça donne un côté James Bond. Là, on est vraiment dans l'extravagance. Le jour en plus du rendu du jugement Le Pen, franchement, c'est pas cohérent, c'est pas adapté.
Mais c'est vrai que ces lunettes, quand même, un mot quand même sur les lunettes de soleil du président Macron. Alors, il a un problème à l'œil, visiblement.
C'est pour ça qu'il porte ses lunettes. C'est pour ça que la première fois, il les avait.
Sinon, il ne portirait pas quand même des lunettes de soleil à l'intérieur.
On parle toujours de la santé des présidents de la République.
C'est pas ce qu'il a, là.
Je pense que même du côté de l'Élysée, on pourrait faire un petit communiqué de quelques lignes pour expliquer.
Moi, ça me choquerait pas qu'un journaliste lui pose la question.
Oui, pourquoi est-ce que il remet ses lunettes?
Les journalistes qui suivent le président peuvent lui poser la question.
Tu soulignais le palmarès et c'est l'expression que tu as employée en barbarie du nouveau président syrien.
Ah oui, quand même.
Oui, mais si tu veux, il faut qu'on parle avec nos ennemis.
Mais oui,
la Syrie sera un acteur.
Comprends, mais c'est bien de le rappeler quand même.
Nos ex-ennemis, si tu veux.
Nos amis.
Quand il y avait Hafez el-Assad, c'était pas spécialement un commis troupier.
Oui,
hein, c'était
rappeler,
un dictateur syrien. Quand il y avait Saddam Hussein, avant qu'on lui déclare la guerre parce qu'il avait envahi le Koweït, c'était un partenaire de la France et on allait voir.
Donc parler, c'est pas se compromettre.
Voilà.
C'est pas juste. C'est bien discuter parce que les autres le feront avant nous.
Aller sur place
et le feront de manière encore plus importante et prendront les marchés là-bas. Si tu veux.
Il a déjà été reçu à l'Élysée. Le téléphone existe. Oui. Aller sur place. Le président engage la sécurité des Français par la stabilité du pays.
D'abord, il engage
la sienne. On est en pré-campagne présidentielle. C'est pas sérieux.
Non, alors ça, c'est vrai. La question de savoir, est-ce que toutes les garanties.
Mais aucune
de sécurité,
garantie. Je te réponds, aucune garantie. Avec un régime qui est un régime issu du terrorisme.
En fait, c'est ça. C'est le problème, il est là. C'est qu'il n'y a pas de stabilité en Syrie. Il est parti. C'est-à-dire que le président syrien est venu.
Et c'est
France.
Forcément une compromission d'aller sur place de cette manière-là.
C'est pas une compromission.
C'est cautionner ce régime.
En fait, il y a quand même, je pense, une volonté d'être les premières.
Mais c'est ce que je dis. Les Américains vont être là-bas.
Oui, mais on sera les premiers. Je pense qu'Emmanuel Macron, il n'y a pas de course à l'échalote. Il veut être le premier dirigeant occidental à aller sur place.
Mais c'est ça qu'on attend de voir, c'est l'intérêt diplomatique. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir
quels sont nos
les revendications de cet attentat. Et la deuxième chose, c'est de connaître les intérêts diplomatiques. Et comme dit Alain, s'il y a des intérêts diplomatiques en matière industrielle, économique, etc., ça peut.
Et même vis-à-vis du Liban, vis-à-vis d'Israël.
Donc c'est tout. Après, le reste, qu'il ait mis sa vie en danger, lui, et par conséquent la stabilité de notre pays, parce que s'il lui était arrivé quoi que ce soit, forcément, ça a des incidences sur la France.
C'est la France qui est visée.
Mais là, évidemment.
Ça doit être la panique. Je rejoins Flora sur la compétence et le dévouement ultime des membres de sa sécurité. Mais là, ça doit être la panique sur place. La panique, parce que tant qu'il ne sera pas parti de l'espace aérien.
C'est sûr que là, ils ne vivent pas un bon moment, là.
Mais c'est leur chef qui les expose.
Je dis pas que leur métier est sans risque, je dis juste que c'est leur métier.
Oui, mais ça serait bien
comme
que
les militaires.
Justement, comme ce sont des gens spécialisés et qu'ils ont quand même ils devraient avoir le dernier mot, comme dit Olivier.
Alors, il y avait à l'époque des attentats de Charlie, il y avait eu un débat parce que François Hollande, qui était président, était allé lui-même devant au siège de Charlie Hebdo, ce qui était jugé par sa sécurité comme extrêmement dangereux puisque c'était
Totalement inutile, en plus, une heure après,
je crois que c'était un élan humain de la part de François Hollande qui s'est dit faut que je sois sur place.
Mais ce qui compte, c'est à
10 minutes de voiture de l'Élysée.
Un chef de l'État, il est là pour gouverner, il n'est pas là pour faire du spectacle.
Mais je crois pas que c'était du spectacle, mais peu importe. À l'époque, ce qu'on disait, c'est que Obama, qui était président des États-Unis, s'il va à l'encontre, mais ça doit être le cas pour Donald Trump aujourd'hui, s'il va à l'encontre de la recommandation sécuritaire, il doit signer une décharge et il doit signer plusieurs papiers. Enfin, c'est compliqué. Alors que nous, le président, il est quand même libre. Moi, je suis plutôt contente. Je suis pas d'accord parce que le président,
ça va au-delà de sa personne. C'est la France. C'est-à-dire que si François Hollande,
c'est pas le corps du roi. On n'a pas coupé la tête du roi et dans des places à Emmanuel.
On a bien le corps du roi, il appartient à
Emmanuel Macron.
On le paye encore aujourd'hui.
Oui, bon, on va pas lancer des
débats. Si Emmanuel Macron a envie de se mettre en danger ou de prendre un scooter pour aller voir sa maîtresse,
il est le président des
voyants. C'est ceux qui sont contre la peine de mort qui se glorifient d'avoir du régicide et de l'assassinat de la reine Marie-Antoinette.
La fonction est plus importante que l'homme, je suis désolé, et qu'il faut se plier à certaines contraintes.
Donc en fait, on est en prison.
Mais non, t'es pas obligé d'être président, t'es pas obligé de te présenter.
Non, mais c'est pour ça que leur
bilan de santé, François Hollande sur son scooter, c'était non seulement ridicule, mais en plus, c'était dangereux pour sa sécurité et la sécurité de la France. À un moment donné, chacun a des responsabilités dans sa fonction. Mais après, comme on ne va plus être gouverné par un humain,
c'est sûr que le pays va mieux s'emporter. En fait, on fait comme la reine d'Angleterre. On le met dans un palais doré, on met des caméras partout. On fait le Truman Show à la française, on le filme et on le regarde. Voilà. Et on le met en direct 24 heures sur 24 sur l'antenne de RMC. Oui. Comme ça, en plus, on augmente notre audience. Peut-être que ça augmentera nos salaires. Peut-être.
On se retrouvera demain avec Sébastien Chenul, député Rassemblement National du Nord, Sylvie, président du RN, Bruno Poncet, Charles Consigny, Barbara Lefebvre seront là. En attendant, Estelle Denis va continuer la discussion en direct sur RMC, RMC Story. Bonjour Estelle.
Salut Alain, salut les GG. On va évidemment parler de cette troisième vague d'eau chaleur. 61 départements en alerte canicule orange. Est-ce que vous êtes prêts pour cette troisième vague de chaleur? Est-ce que vous avez acheté une clim? Est-ce que vous allez fuir au bord de la mer ou alors vers le nord? En tout cas, on en parle avec vous dans un instant. On se posera cette question. Marine Le Pen ou Jordan Bardella, quel est le meilleur candidat pour le RN?
Finalement,
en 2027, c'est au cas où Marine Le Pen soit inéligible.
Bardella.
Les sondages sont plutôt favorables à Jordan Bardella par rapport à Marine Le Pen. Et puis, il était chez vous il y a quelques minutes, François Ruffin, qui veut mettre fin aux avantages des anciens présidents de la République. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre cette proposition de François, ça peut être une bonne proposition. En tout cas, ça, on en parlera à 13h30. Donc venez nous voir 32-16 et puis le WhatsApp.
Bien sûr, en direct. Jusqu'à 15h. Bonne émission avec Estelle.
14,
c'est vrai, il y a
l'intégral tour, bien sûr.
Sur RMC.